Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Elisabeth Collet. Porter son regard cette semaine sur la drôlerie du verbe d'Herman Melville dans le classique Moby Dick paru en 1851, roman qui foisonne d'esprit et d'inventivité. Je vous prends deux réflexions du héros parmi d'autres. D'abord, cette comparaison inattendue lorsqu'il découvre le lieu où il va passer la nuit. Je fus introduit dans une chambre plutôt petite, froide comme une palourde. Puis cette observation après avoir dormi dans le même lit qu'un harponneur vendeur de têtes. Malgré tous ses tatouages, c'était en somme un très propre et fort avenant cannibale. J'aurais pu ouvrir le livre au hasard, n'importe où, tant il fourmille de récréation. Acteur ayant tourné sous la direction de réalisateurs comme Alain Ghiraudy, Ladj Ly, Christopher Nolan, Roman Polanski ou Wes Anderson, notre invité a joué récemment dans Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Il sera prochainement dans des films de Léopold Legrand, Ilan Klipper et Noé Milowski. Je donnerai les titres à la fin de l'émission car je suis sans pitié. Avant cela, ce loustique aurait été pizzaiolo, pêcheur d'anguilles et d'algues au Canada, manœuvre sur des chantiers, assistant de direction dans un laboratoire du CNRS spécialisé dans la fabrication du diamant artificiel.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Damien Bonnard.
Bonjour.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde?
Je crois que c'est une des choses que j'ai dit à mes parents un jour. J'ai été les voir en leur disant je suis content d'être né.
C'est vrai?
Mais je ne connaissais pas la raison, mais en tout cas je la ressentais apparemment.
C'est le meilleur compliment qu'on puisse recevoir en tant que parent, j'imagine. Bon bah d'accord. Comment se passe la cohabitation avec vous-même?
La cohabitation avec moi-même, elle se passe, elle est plutôt intranquille. Mais je crois que c'est là qu'est la force en fait. Enfin, c'est que du coup on la laisse pas tranquille, on la questionne. Du coup je me questionne, oui c'est ça. Enfin, j'essaie de travailler au maximum pour modifier en permanence. Tout quoi, le regard, les attitudes, des pensées, enfin pour que tout soit en mouvement en fait en permanence.
Donc sinon plutôt vers l'élévation.
Triste. Vers l'élévation.
L'amélioration de soi en permanence.
Ouais, je sais pas si je m'élève, mais en tout cas.
Là, vous venez de vous élever d'un mètre dans le studio. Ouais,
c'est vrai, ça se voit. Je pensais être
redescendez s'il vous plaît.
Non, mais en tout cas oui, je sais pas, il y a un truc à, mais c'est quelque chose qui est très présent en ce moment. C'est tellement fou à quel point, en observant ce qu'on n'a pas l'habitude d'observer, les choses commencent à s'agrandir et où les mondes sont plus vastes que faut être attentif à ça.
Bon, on va y revenir. Ça fait partie de ce que vous avez choisi pour l'émission.
Je suis belle au mortel comme un rêve de pierre. Et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière.
La beauté de Charles Baudelaire, mis en musique et chantée par Léo Ferré en 1967. Damien Bonnard, l'émission porte un nom de la même racine étymologique que ce qui vous donne envie de vous lever. Vous êtes donc au bon endroit. Parlez-nous de la beauté, de ce pourquoi l'on peut se passionner et de ce que l'on peut contempler. Est-ce que vous la voyez aisément, la beauté ?
Non, il faut la chercher et il faut soit se la rappeler. Alors du coup, c'est pour ça que je repensais au nom de votre émission. D'ailleurs, vous avez changé de nom.
Oui.
Parce que ça s'appelait Remède à la mélancolie, maintenant ça s'appelle l'embellie.
Bah on m'a demandé de changer de nom.
Ah.
Oui.
Parce que c'est pas la même chose, d'un seul coup.
Bah non, c'est pas la même chose, on parle plus de mélancolie, on parle d'action.
D'accord, mais c'est quand même... c'est de la mélancolie au présent.
Non, plus de mélancolie,
présent.
C'est fini la mélancolie. Okay. C'est comment habiter le monde le moins douloureusement possible, mais en y participant, en étant tourné vers l'action.
D'accord. Mais parce que moi, j'ai l'impression que des fois, la mélancolie, elle me charge de force pour être tournée vers l'action aussi. Mais peut-être que c'est la même chose, du coup.
Peut-être. Vous voulez qu'on fasse un spécial remède à la mélancolie? C'est possible. Quel est votre rapport à la mélancolie? Non, il me manquait cette question.
Non, mais après, sur la beauté, j'ai réfléchi beaucoup à tout ça, à comment se mettre, enfin, en fait, comment ne pas se dévier de ça, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a autant de capacité à pouvoir se passionner pour des choses, à les contempler, et c'est important en plus de prendre ces temps-là, mais on a autant de capacité à détruire tout ça. Et souvent, c'est des beautés éphémères. Moi, quand je parle de beauté, ça peut être, je sais pas, la cime des arbres le soir dans un parc, ou ça peut être un bout de plastique rose sur un trottoir qui va bien avec la couleur du trottoir, qui fait une harmonie. Ça peut être, je sais pas, vous vous rappelez de ce personnage dans ce film qui s'appelait American Beauty.
Oui.
Et ce personnage qui passe son temps à filmer tout ce qui, pour lui, en tout cas, lui semble beau, enfin, notamment un sac plastique qui vole comme ça, qui danse dans l'espace. Et je trouve ça important, ouais, parce que maintenant on a tendance un peu à combler tous les moments d'attente, ce qu'on considérait comme des moments de vide, en se jetant sur un téléphone ou des choses comme ça, ce qui, quand même, au final, nous enlève tous les moments où on pouvait juste penser, s'évader, réfléchir, ou justement se passionner pour quelque chose. Et non, ça me semble une des choses importantes, et surtout avant que soit nous-mêmes on les détruise, soit qu'elles soient détruites. Donc j'essaie d'en capturer un maximum et de les conserver dans ma tête. Hein. Je prends même pas de photos.
Damien Benard, est-ce que vous vous passionnez souvent? Parce que le propre d'une passion, justement, c'est de ne pas durer. Est-ce que les vôtres sont pérennes?
Je pense qu'il y en a qui sont là et qui sont là depuis un moment, ouais. Notamment une passion pour toute forme d'art, donc littérature, peinture, cinéma, danse, théâtre, et autres, enfin, musique. J'essaie de pas oublier des arts. Il y en a 7 normalement.
La bande dessinée.
La bande dessinée, je connais moins.
Les chiens.
Mais les chiens, non. Les chiens empaillés, ouais. Les chiens empaillés, c'est une forme d'art.
Oui, si c'est bien fait.
Mais si c'est bien fait ou si c'est mal fait, j'avais regardé une fois sur Google les pires animaux empaillés. Et franchement, c'est assez drôle. Non, mais c'est beau, ça donne une autre dimension. Mais j'ai oublié la question. C'était
qui êtes-vous?
Non, c'était pas ça la question.
Qu'est-ce que vous faites là? Non, c'était est-ce que vos passions sont pérennes?
Oui, donc certaines sont pérennes, et heureusement, parce que ça me donne quand même l'impression d'avoir une base. Mais après, non, c'est surtout le plus intéressant, c'est que des nouvelles, que de l'inconnu arrive, en fait. Et c'est de se passionner pour ce qu'on connaît pas. Ce qu'on sait pas faire.
Est-ce que vous êtes d'un naturel contemplatif?
Je crois que je le suis, mais je crois que le monde, des fois, nous empêche tellement de l'être que, franchement, faut se battre, hein, mais.
Ouais, ça se reconquiert.
Ouais, tous les jours.
Dans un instant, il sera entre autres question de Barry White, de Naissance sous l'eau, de Don Quichotte, de Fiction, de Topor, mais aussi de Chagall, Deleuze, Kubrick, Daniel Day-Lewis et Dan DeLillo. Je ferai de mon mieux pour qu'on ait le temps de tout aborder avant 11h.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais maintes fois. Si encore je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison diffèrent, mon amour, mon poison violent.
Tina Sili, Tina Sili, Tina Sili, Tina Sili.
Pour cela, j'étais bien trop fière. La mort frappait finalement.
Si nous avons croisé le fer, c'est dans le coton seulement. Mais mon amour, tu le vois rouge se faire que je voulais blanc.
Tina Sili, Tina Sili, Tina Sili, Betty.
Thank you. Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais autrement.
Bon, j'y crois, enfin j'espère, j'espère y croire ou je me mens.
Mais pas de retour à la terre, un tulle que je voulais blanc.
Tu viens d'arracher ma robe et veux me perdre dans les champs.
Tenacity, 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 tenacity.
Albin de la Simone et Yael Naïm, Tina Sili, dans l'embellie sur France Inter, nous sommes avec Damien Bonnard. Aimez-vous le monde dans lequel vous vivez ?
De toute façon, je suis bien obligé, mais... Non, mais oui, bien sûr, mais je l'aime autant que je le déteste.
C'est une très bonne réponse. Comme changement sociétal, vous proposez de retrouver plus de liberté dans tous les sens du mot, d'être moins tiède, d'oser, se révolter, être, voir l'autre. Un exemple de sens du mot liberté pour vous ?
C'est des fois d'essayer les choses, en fait, de pas s'annuler soi-même. Donc, et c'est difficile, ça, des fois. Enfin, il y a des choses qui font qu'on... Ouais, on n'essaye pas parce qu'on... Avant même d'avoir essayé de faire quelque chose, on le dévalorise ou on l'annule ou on le... Donc non, je trouve que c'est quand on arrive à au moins produire des gestes, qu'ils soient bons ou pas, au moins on tente quelque chose. Et des fois, on s'enlève ça à soi-même.
Vous y arrivez ? Vous vous poussez à le faire ?
Ouais, j'essaye, ouais.
Vous allez vers ce qui vous fait peur ?
Je de plus en plus, ouais. Mais longtemps, ça m'a fait peur, mais...
Oui.
Mais maintenant, mais c'est hyper intéressant d'aller vers ce qui nous fait peur ou de... Des fois, faut prendre une petite armure, faut se protéger un peu, on sait jamais, mais pas tout le temps. Donc maintenant, j'essaye de... Ouais, ou si je laisse pas l'armure à la maison, si jamais je la prends avec moi, je la mets pas tout de suite, quoi.
C'est joliment dit. Damien Bonnard, quand vous parlez de tiédeur, vous parlez de la vôtre ou celle de la société ou celle des autres ?
Non, je m'inclus dedans, c'est que je trouve que... Je sais pas si c'est de la mélancolie. Ou pas,
mais... arrêtez de me faire ça, c'est vraiment méchant.
Je sais pas si, c'est... mais j'ai l'impression, moi, j'ai des souvenirs de enfant ou adolescent où j'avais l'impression que on osait plus dire les choses en fait. Enfin, on pensait moins aux conséquences. C'est pas qu'on était inconscient, mais on osait plus prendre parti, dire bah non, ça c'est nul, ça me convient pas, et affirmer des choses. Et maintenant. On a peur de tout ce qui pourrait advenir, alors que il s'agit d'être soi-même. Alors, il s'agit de faire attention à pas raconter trop de conneries non plus, mais voilà, ou au moins, en tout cas, de critiquer dans le sens pas pour détruire des choses forcément, mais pour les questionner. Mais je trouve qu'on se planque un peu, ouais, tous.
Quand vous parlez d'être et de voir l'autre, qu'est-ce que ça signifie ?
Bah, de pas seulement regarder l'autre pour se voir soi, enfin c'est juste mais c'est pareil, c'est difficile, mais faut essayer, je sais pas.
L'étonnement, on pourrait faire l'objet d'une définition de la fiction.
Oui, l'étonnement, mais pour étonner il faut être étonné.
Vos fictions étonnent.
Oui, mais c'est l'étonne parce qu'elles ont été écrites par un homme étonné. C'est-à-dire, l'étonnement n'est pas créé par la fiction. C'est la source aussi. C'est l'objet, c'est l'effet et c'est la cause de la fiction, non ?
Borges, au sujet de la fiction dans À voix nue en 1978 sur France Culture au micro de Jean Dève. Damien Bonnard, vous dites être engagé dans la fiction et les fictions. Qu'entendez-vous par là ? C'est ce que vous interprétez par exemple quand vous jouez ? C'est ce que vous créez ? Est-ce que vous êtes un bon menteur ?
Non, moi j'ai souvent, depuis que je suis petit, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis la vérité, on croit que je mens, et à chaque fois que je mens, on croit que je dis la vérité. Donc franchement, souvent...
Autant dire vraiment, n'importe quoi alors.
Non mais j'étais souvent, quand j'étais petit, quand j'étais accusé d'un truc que j'avais pas fait, je sais pas pourquoi je rougissais, j'étais le coupable parfait, même physiquement quoi. Donc je sais plus quoi faire avec ça, mais non, la fiction, je crois que j'ai toujours été, en tout cas à cheval, c'est comme ça. Je pense que c'est mon corps, ma tête qui est comme ça. J'ai besoin du réel autant que de la fiction, donc ce qui pourrait être de l'évasion, le fait de s'évader de quelque chose, et qui des fois revient au réel, mais j'ai besoin d'avoir les deux en même temps. Et je trouve que dans la fiction, c'est surtout l'envie de fiction qui est belle, enfin le désir de fiction en fait. Au-delà de la fiction, c'est le désir de la fiction, du coup de tout ce qui est possible, c'est toujours pareil en fait, j'en reviens toujours au même, mais c'est le fait d'élargir le
son horizon.
Ouais, enfin son en tout cas le déplacer.
Donc déplacer son regard. Vous avez quitté l'école à 16 ans parce que justement vous trouviez que là où vous étiez, on ne vous proposait pas un monde assez large.
Ouais. Je développe.
Bah non,
mais oui.
Oui, j'aime.
Non, mais c'est parce que, mais par exemple, je pensais quand, par exemple, à l'idée de qu'est-ce qui me donnait envie de me lever le matin, je réfléchissais à ça, et c'est aussi qu'est-ce qui me donne envie de rester éveillé, par exemple, ouais, de pas me coucher tout de suite. Et j'aime les deux. Moi, j'aime la journée autant que la nuit, mais c'est des mondes différents, des mondes où on voit les choses différemment, et j'ai toujours eu envie que ça soit comme ça, que ce soit vaste. Et à l'école, c'est vrai que je sais pas, parce que je sais pas, mais je trouvais que l'école elle
rétrécissait.
Elle proposait pas assez de choses, quoi. Enfin, moi j'avais, et je sais pas si j'aurais peut-être refusé de travailler à la NASA si on me l'avait proposé, ou j'aurais peut-être refusé d'être, mais non, mais en vrai je me disais c'est fou ça qu'on nous parle de plein de métiers qui sont sans doute intéressants, mais mais que ça soit des métiers qui soient un peu proches déjà de notre monde, et que ça soit pas les autres, quoi. Que je sais pas, d'être égyptologue, d'être qu'est-ce qu'on pourrait dire, spécialiste en poils de chevaux, je sais pas moi, des trucs qui existent pas, mais d'agrandir, ouais.
Salut, aujourd'hui jour du 8, c'est la Sainte Avion en papier. Bonne fête à tous les avions en papier.
C'est bon ça.
C'est qu'elle est agile, la petite grosse.
Vous auriez pu lui souhaiter bonne fête avant qu'Olga l'attrape.
Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne.
Et quoi, madame, s'il vous plaît?
J'ai rien contre Olga. Mais est-ce que c'est gentil de lui donner les objets juste le jour de leur fête?
Vous levez là un fameux lièvre, Lola. En effet, la vie, c'est pas gentil.
La série Jeunesse, créée en 1983 par Roland Topor et Henri Xonneux pour Antenne 2 à l'époque, Téléchat, 234 épisodes de 5 minutes qui ont traumatisé plusieurs générations d'après une enquête dans mon entourage depuis 3 décennies. Et dans l'extrait que vous entendez, sont présents les présentateurs du JT de Téléchat, Lola l'autruche, Groucha le chat et la poubelle Olga. Fantaisie absolue et intelligence pour ce programme jeunesse. En quoi cette série a changé votre rapport au monde, Damien Bonnard?
C'est vraiment une série que j'ai regardé enfant avec mon frère. On regardait ça. Je crois que c'était mon journal télévisé préféré, parce que finalement, je les aimais beaucoup. Moi, il y avait la cuillère aussi que j'aimais bien. Là, il y avait un personnage de cuillère. J'aimais ces personnages qui partaient enquêter comme ça, faire des reportages sur la vie. Et mais après, je sais pas, Topor, moi, m'a touché à plein d'endroits. Donc, que ça soit La Planète Sauvage, que ça soit des livres qui ont été adaptés,
Le Locataire Chimérique.
Exactement, Le Locataire Chimérique, qui est devenu le locataire de Polanski, ses décors de théâtre, les dessins qu'il faisait. Enfin, j'ai une sérigraphie de lui chez moi. C'est quelqu'un qui, et c'est justement, moi, cette période-là, elle m'intéresse, parce que c'est toute la période où il y avait encore des mouvements d'artistes, ce qui a complètement disparu. Donc,
il y a plus de mouvements d'artistes?
Il y en a pas. Il y en a presque, enfin,
Oui, vous voulez dire des groupes qui...
Des groupes, ouais, des groupes et qui font des choses ensemble, et ça faisait aussi partie d'une époque où Roland Topor, il était à tous les endroits où il avait des choses artistiques à y faire. Donc c'était l'écriture, la peinture, les décors de théâtre, les costumes, les films d'animation comme La Planète Sauvage.
Et loin de toute tiédeur en plus.
Ouais.
Ce serait difficile, certains dessins pourraient pas apparaître aujourd'hui.
C'est fort possible. Mais c'est pas grave, ils existent encore.
Je trouve que la beauté du métier d'acteur, c'est d'une part révéler justement qui on est, mais de révéler qui est celui que l'on invente, plutôt que l'auteur a inventé, et que l'on invente avec l'auteur. Si c'est pour déclencher au spectateur l'émotion que l'on pourrait avoir, non. Il faut essayer complètement d'oublier qu'on est acteur, quand on est acteur.
Michel Piccoli, Au micro de Laure Adler dans À voix nue sur France Culture en 2006, un entretien marquant pour vous, Damien Bonnard, autour de ce monstre sacré du cinéma dont vous avez également dévoré la biographie et revu tous les films. C'est un modèle ?
Oui, ouais, c'est un repère. C'est quelqu'un qui me touche énormément et qui, bah, il faut écouter ses heures d'interview parce que je crois que c'est 4 heures en tout et c'est magnifique à écouter autant sur le métier d'acteur que sur le métier d'humain. C'est Piccoli, il dit qu'à un moment, quand il entend le son de la pluie, quand tout le monde commence à rentrer en courant parce qu'il faut se mettre à l'abri, il sortait avec son parapluie juste pour entendre le son des gouttes sur le parapluie et mettre les pieds dans l'eau. Et... Non, moi, il m'intéresse énormément comme acteur, forcément. Et aussi dans ses choix de films, en fait, c'est quelqu'un qui a été à des tas d'endroits différents, dans des univers très très différents et qui a travaillé. Enfin, c'est quelqu'un. Je sais pas si on peut parler de se mettre dans les pas de quelqu'un ou dans les traces de quelqu'un, mais ça fait partie des gens importants, ouais.
Il y a aussi dans les comédiens que vous admirez, Damien Bonnard, Al Pacino, Peter Sellers et Joaquin Phoenix. Vous, je crois que vous travaillez à l'américaine, ce qui est assez rare.
Je travaille à l'américaine.
Parmi nous, vous travaillez à l'américaine.
Non, je travaille.
Vous faites des claquettes partout.
Enfin, disons, non, mais parce que c'est vrai qu'il y a un truc, mais ou chez les Anglais aussi, mais enfin, qui est peut-être oui considéré comme plus américain, plus anglo-saxon, et peut-être aussi parce que en France,
le travail, en fait, tout
le
simplement.
Travail,
c'est plus anglo-saxon que français. Le travail.
Plus anglo-saxon, ouais. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, en France. On est un peu feignant, quoi, et c'est dommage parce que on a la chance de pouvoir faire des choses et autant tout donner pour les faire de la manière la plus forte. Et voilà, mais moi j'essaye, en tout cas je m'accompagne de choses pour préparer mon métier, en tout cas ce métier qui fait partie de ma vie. J'essaie de que ça soit le plus riche possible. Donc pour que ça soit le cas, il faut trouver des chemins qui permettent de se rapprocher de ça. Donc je me trempe dans quelque chose.
Apparemment, Damien Bonnard, vous écoutez beaucoup la radio car vous avez aussi choisi cet entretien.
Aujourd'hui, vous savez, encore aujourd'hui, j'étais toujours inquiet. Ma mère m'a raconté dans le temps que quand je suis venu au monde, il y avait un grand incendie dans la ville. Et on l'a transporté, elle, avec moi, dans le lit, d'une place à l'autre pour le sauver. Peut-être ça, mais je suis toujours inquiet, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je suis gay, je suis toujours souriant. J'aime les gens terriblement.
1971 à Cannes, le peintre Marc Chagall sur la chaîne, dans Radioscopie de Jacques Chancel. Son univers onirique, poétique, son réel transfiguré, c'est un peintre de la surréalité, disait Apollinaire. Vous l'avez choisi pour l'émission.
Ouais, c'est un ami qui m'a fait découvrir cette interview avec Jacques Chancel. Et en fait, ce qui est beau, il explique que pour peut-être s'intéresser au réel, faut qu'il y ait de l'illogique, de l'irréel, enfin, faut qu'il y ait toute cette dimension-là en plus pour pouvoir vraiment s'accrocher au réel et en dire des choses. Mais c'est surtout que c'est une parole qui est hyper humble. Enfin, il a un truc, Chagall, qui est tellement beau. Il y a un moment où, Chancel lui demande s'il pense qu'on verra encore du Chagall dans 300 ans. Et Chagall lui répond, normalement, s'il n'y a pas de guerre ou de bombe atomique, un tableau doit pouvoir rester accroché au mur d'un musée et on pourra encore le voir. Mais à aucun moment, il se dit, oui, j'espère qu'on me verra encore dans 300 ans. C'est que je la trouve très très belle, cette interview. Surtout quand il parle de sa femme où il devient complètement, on sent qu'il perd complètement les pédales dès qu'il parle d'elle. Elle a l'air très importante dans sa vie.
Dans ses tableaux aussi.
Ouais, et dans ses tableaux. Ouais.
Damien Bonnard, vous avez fait les Beaux-Arts? Une prépa à Chalon, puis Nîmes et Bruxelles, 6 années en tout.
Oui.
Et vous avez été assistant de la peintre abstraite et minimaliste belge Marthe Wery.
Oui.
Je continue, vous dites ouais à tout ce que
non,
je dis,
non,
d'accord. Votre grand-père était fondeur d'art pour Giacometti et souffleur de verre.
Oui.
Et votre père, menuisier et ébéniste et ouvrier chez Renault.
Oui. Non, mais...
Donc l'art et l'artisanat, c'est très important dans votre famille.
Bien sûr. Mais de toute façon, c'est même dans l'autre sens que ça s'est fait. C'est parce que je pense j'ai fait les Beaux-Arts certainement parce que j'ai vu mon grand-père faire de l'art. Et puis je savais tellement pas quoi faire avant que mes parents me virent de chez eux. Fallait bien...
Ils vous ont viré?
Ils ont proposé, ouais.
Ah.
Mais c'est bien, ça a fait un déclencheur, donc... Bah oui, parce que je savais pas trop où aller et j'ai choisi. Je pense que mon grand-père, oui, pour avoir passé du temps dans l'atelier, à le voir travailler, à faire du bronze, du verre, tout ça, pour avoir être passionné par ça, parce que c'est quand même, en plus, ça c'est complètement magique. Hein, c'est des, enfin c'est des, c'est des choses qui bouillonnent comme ça à 1600 degrés. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Donc je faisais ça. Moi, je faisais pas de sculpture à l'époque. Je prenais de la poudre d'or et je le mélangeais avec de l'essence de térébenthine et puis ou de l'huile de lin. Je sais plus ce que je faisais. Enfin, je faisais un mélange et puis je repeignais toutes les pierres du jardin tout autour. Et j'avais peint un tabouret aussi comme ça. Et ce jour-là, il y a un représentant qui est venu pour vendre je sais pas quoi. Et mon grand-père l'a invité à s'asseoir sur le tabouret que je venais de peindre avec de la poudre d'or. Donc cet homme est reparti avec les fesses dorées, mais je pense qu'il l'a découvert plus tard. Mais on faisait ça avec mon grand-père. Mais voilà, et Marthe Wery, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, qui compte encore, qui est une peintre intéressante. Enfin, il y a ses peintures à Beaubourg, à plein d'endroits, mais ouais, ça a été une très belle histoire. Enfin, ça a été quelqu'un d'important dans ma vie.
Si on me dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?» C'est l'interrogation. Où est le problème? Où est la question? Il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est le problème ou la question de Dieu? Eh bien, c'est pas est-ce que tu crois en Dieu ou pas, ce qui n'intéresse pas beaucoup de gens. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le mot Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire, vas-tu être jugé après ta mort? En quoi ça, c'est un problème? Parce que ça établit un rapport problématique entre Dieu et l'instance du jugement. Est-ce que Dieu est un juge? Ça, c'est une question.
Extrait de l'abécédaire de Gilles Deleuze, produit par Pierre-André Boutan, tourné entre 88 et 89 et diffusé sur Arte dans Métropolis en 95. Le philosophe est interrogé par son élève, la journaliste Claire Parnet. 8 heures d'entretien que le penseur a autorisé à diffuser après sa mort. Mais la diffusion a malgré tout commencé quelques mois avant qu'il ne mette fin à ses jours. En 1995. Quelle place pour l'abécédaire dans votre vie, Damien Bonnard ?
Il a une place importante, forcément, puisque je le réécoute régulièrement. C'est toujours comme ce que je disais tout à l'heure, c'est juste de re-questionner les choses ou d'en affirmer certaines, enfin en tout cas de les mettre en mouvement tout le temps.
Un autre artiste important pour vous, c'est Stanley Kubrick, et notamment le film Barry Lyndon et son geste de cinéaste en général. Barry Lyndon, qui est un chef-d'œuvre absolu, excessivement triste, qui a coûté 11 millions de dollars et 300 jours de tournage répartis sur 2 ans.
Ouais. Non, c'est parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai trouvé ce film incroyable. Au tout départ du film, on croit voir quelque chose et ça se transforme petit à petit. Et au début, c'est presque une comédie un peu étrange. Et puis d'un seul coup, ça se charge. Et un espèce de poids du monde comme ça qui s'abat sur ce personnage. Enfin. Et non, je trouve ça grandiose, en fait.
Autre artiste qui jouait beaucoup avec la fine frontière entre la comédie et la tragédie, c'est Buster Keaton. Et c'est la comédie romantique burlesque de 1928. Le caméraman, aussi appelé l'opérateur, muet, noir et blanc, 75 minutes, un singe.
Un singe très, très doué.
Oui, très
incroyable.
Doué. Mais doit-on dévoiler ?
Qui connaît son texte parfaitement. vous verrez, son texte est magnifique dans ce film muet. Il y a un peu tout dans ce film, en fait. Enfin, c'est tout la fabrication du cinéma, le montage, qu'est-ce qu'on raconte, comment on peut le raconter, comment on peut raconter l'inverse. Enfin, mais de toute façon, c'est mon intérêt pour le film muet, c'est ça aussi, c'est que c'était une époque où il fallait faire comprendre les choses par les images et par le montage. Et donc, sans les mots, ou quelques pancartes, ça me plaît, moi. Enfin, je trouve ça, des fois, beaucoup plus fort que beaucoup de films contemporains.
On peut le trouver sur Internet assez aisément et les références seront sur le site de l'émission, évidemment. Daniel Day-Lewis, son émission avec Augustin Trapenard et le travail de P.T. Anderson dont on parlera juste après avoir abordé Daniel Day-Lewis.
Ben non, c'est parce que c'est un acteur qui me passionne, mais je ne suis pas le seul. Hein, je pense qu'il passionne plein de gens parce que c'est un grand acteur qui a fait très peu de films. Hein, il a dû faire 10 films ou 11 films. Mais l'émission qu'il avait fait avec Augustin Trapenard était passionnante parce qu'en fait, il a parlé pratiquement que de menuiserie. Mais en fait, il a parlé de tout à travers la menuiserie, mais parce qu'il parle de comment fabriquer des choses, comment les regarder, comment les polir, comment finalement les retailler, comment les questionner, ouais, comment les disposer. Enfin, c'est qu'en fait, à travers un métier, enfin, quand on fait vraiment les choses, et donc quand on travaille, quand on n'est pas des feignants, quand on plonge intégralement dans quelque chose, bah, c'est là qu'il se passe des choses. Donc, c'est de se jeter entièrement et quand même tous les jours. On meurt un petit peu, autant se jeter franchement, non mais...
Oui, c'est vrai. Si on se détruit pas totalement en se jetant.
Oui, il faut faire attention.
Oui, mais c'est pas facile parfois de faire attention.
Ouais.
Mais bon, sinon on vit pas, on prend aucun risque.
Voilà.
On devient comme Lovecraft qui avait peur de tout et vivait enfermé.
Et le panneau The End arrive.
Oui.
Ça, en même temps, j'aime bien dans les films. J'adore les films où c'est marqué fin. Ça compte tellement, ça.
Ah oui?
Ouais.
Alors là, j'ai du mal à enchaîner, mais Daniel Day-Lewis a tourné dans des films de Paul Thomas Anderson, et c'est aussi un cinéaste qui compte pour vous. C'est des gens très ambitieux dans leur œuvre que vous avez choisi, Damien Bonnard. Là, je sais pas, je pense à Boogie Nights ou Magnolia, qui sont des chefs-d'œuvre.
Bien sûr, ou même, enfin, il y en a plein. Punch Drunk Love aussi, qui est un grand film.
Oui, qui me fait que maintenant j'ai peur des services après-vente.
C'est vrai?
Oui, parce que dans le film, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, il appelle une escorte de téléphone rose. Et en fait, il se fait harceler ensuite par elle et par d'autres gens.
Mais de toute façon, il faut avoir peur des services après-vente.
Il y a des escorts.
Mais non, mais c'est Paul Thomas Anderson, c'est quand même c'est un Kubrick. Enfin, il y a deux personnes qui me font penser à Kubrick aujourd'hui. Je parle dans des gens qui ont une réflexion sur le monde, qui ont des choses à dire dans le cinéma et qui ont quelque chose à raconter artistiquement de très fort. C'est Paul Thomas Anderson et Yorgos Lanthimos, ça me paraît être les deux personnes un peu qui sont sur cette voie-là. James Gray aussi un peu, mais c'est le fait de s'attaquer aussi à des moments d'histoire différents, à des mondes différents et tout ça, et à chaque fois, et de questionner quand même réellement des choses précises et des thèmes comme ça. Et Paul Thomas Anderson fait ça. Et forcément, ça m'attire.
On parle d'artistes ambitieux. Et alors là, bon, on arrive avec un roman monstrueux et sublime. C'est Outre-Monde de Don DeLillo, qui couvre un demi-siècle de l'histoire américaine. Ça fait à peu près 187 milliards de pages.
Ouais, et j'ai penché la table sur la gauche, justement, ouais. Ici, là. Ça, c'est un livre que j'ai découvert quand j'étais à Bruxelles, justement, quand j'étais avec Marthe Wery, là, quand je travaillais avec elle. Et il m'a sauvé la vie, en vrai. Parce que j'habitais un appartement sans chauffage, l'électricité elle venait d'un câble qui était branché chez des amis voisins, et puis pour aller me doucher je devais traverser une menuiserie, pour la douche était de l'autre côté, donc je traversais souvent avec une serviette de bain la menuiserie, donc au milieu des copeaux j'allais me doucher et je retournais dans mon antre. Et c'est une période où j'ai beaucoup lu, et j'avais des fenêtres qui étaient comme les pavés de verre où il y a la lumière rentre mais tout est flou, donc je voyais la Bruxelles floue. Mais ça donnait des très belles teintes de couleurs, et je lisais ce livre, et en fait, après j'ai lu tous ces bouquins. En fait, ce qui est beau chez Don DeLillo, et en particulier dans celui-là, et je l'ai lu avec un cahier à côté où j'ai noté, j'ai pris des notes. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui nomme absolument tout. Donc il va noter, c'est pas lui qui invente les mots. Les mots existent, mais il utilise les mots qui servent à nommer les choses. Donc ça peut être de la végétation, ça peut être le nom du trou qui sert à mettre ses lacets dans ses chaussures, la couture qui est en dessous. Enfin, il connaît tout, et c'est, bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Daniel Day-Lewis, c'est ce savoir-faire et cette connaissance des choses, et en tout cas d'y être attentif. Et lui, il a une telle attention que c'est d'ailleurs, ça s'appelle Outre-Monde, mais parce que je crois que ça ouvre des mondes à chaque fois. Enfin, si on commence à nommer chaque partie d'une chaussure, c'est plus juste une chaussure, c'est autre chose. C'est une planète avec des galaxies autour, enfin, des choses comme ça. Bref, je suis peut-être un peu fou, mais...
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Since the comes in his show. You play him records, I show. You read him Sylvia Plath. I thought that that was our thing. You know I like you like that. I hate that son of a bitch.
We've been best buds since 13. But that don't change the things I feel.
Morceau Eugene d'Arlo Parks dans L'Embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Damien Bonnard.
Dans un village d'une province espagnole appelée La Manche, vivait, il n'y a pas longtemps, un de ces gentilshommes qui ont lance au râtelier, vieux bouclier, maigre cheval et lévrier de chasse. Notre homme frisait la cinquantaine, était de complexion robuste, maigre de corps et sec de visage. Il habitait avec sa gouvernante Antonia et passait son temps à lire des romans de chevalerie.
Don Quichotte de Cervantes, lu par le comédien Gérard Philippe. C'est le livre que tout le monde devrait lire pour être armé dans l'existence, selon vous, Damien Bonnard.
Après c'est difficile de choisir un livre comme ça. Mais c'est, moi, c'est un livre qui est quand même resté tout le temps, mais qu'il faudrait relire, parce que la preuve, j'en ai déjà oublié à la moitié. Mais de toute façon, c'est le geste de ce personnage, de toute façon le geste du livre et le geste de ce personnage qui en retrouvant la raison perd sa raison de vivre. Enfin, c'est quand même, et puis toute cette fiction, le fait de se plonger dans, de vouloir revivre des choses qu'il a lues lui-même dans des livres, enfin, et puis c'est surtout cette de modifier consciemment ou pas le présent et du coup d'y voir des choses et de vouloir commencer à avoir ces quêtes qu'elles soient justes ou non. Enfin, moi je trouve ça génial, et même il y a beaucoup d'humour aussi chez Don Quichotte, parce qu'il y a en même temps le regard de Sancho Panza. Enfin, il y a toutes ces dimensions qui font que c'est, ouais, ça nous offre un truc qui est quand même très très vous savez comme un moelleux, voilà, tu vois, c'est moelleux. Non, mais il y a...
Comme un moelleux au chocolat.
Voilà. Non, un moelleux en... Ouais, je sais pas, un moelleux. Mais comme un sol moelleux, je sais pas, comme un monde moelleux. Plus grand qu'un moelleux au chocolat.
Waouh. Ça donne envie d'y aller, en tout cas. Nietzsche disait... C'est toujours difficile de commencer une phrase sans rigoler, très sérieusement, en disant Nietzsche disait que l'art nous protégeait de la vérité qui tue. Damien Bonnard, vous flirtez avec la fiction, mais vous dites quand même que le réel est aussi important que la fiction pour vous. Mais justement, dans Don Quichotte, c'est la fiction qui le sauve, c'est les romans de chevalerie qu'il a lus qui lui font partir à la découverte du monde de façon fébrile, avec enthousiasme. Et en effet, c'est...
Alors Platon disait, non je déconne, mais non, bah oui, mais ça, il est armé pour la vie, finalement. C'est aussi la fiction qui l'arme.
Par l'imaginaire.
Ouais, par l'imaginaire. Donc,
et par se tromper soi-même aussi. Le fait de se tromper soi-même.
Ouais.
C'est nécessaire, souvent.
C'est nécessaire de se tromper, ouais. Pour enfin comprendre un jour avant de mourir. Ouais. non, mais je sais pas, il me touche. Après, je sais, ouais. Bref, je vais le relire, voilà.
Damien Bonnard, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie, et vous avez répondu être surpris, rencontrer des personnes qui comptent. Alors, d'abord, êtes-vous facilement surpris?
C'est une bonne question, est-ce que je suis facilement surpris? Si. Ouais, je suis facilement surpris.
Est-ce que vous arrivez à vous surprendre vous-même? C'est pas facile comme question, parce que je me suis posé la question récemment, et c'est rare.
C'est me surprendre moi-même, c'est-à-dire pas en me tapant dans le dos comme ça là,
en vous faisant des canulars.
Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que, enfin, se surprendre soi-même, non, mais en tout cas, comment on répond à cette question?
Ne pas prévoir une de vos réactions.
Ça c'est difficile, mais je m'exerce à être surpris, mais c'est du travail.
Je vous ai demandé ce que... Tout est du travail. Je vous ai demandé ce que vous aviez raté, et vous avez dit: j'ai raté le brevet des collèges, raté ma naissance sous l'eau, et là, il y a ce mot mystérieux, l'expérimental.
L'expérimental, en fait, c'était mes fugues. J'ai raté mes fugues, en fait. Parce que autant le brevet des collèges, bon, j'ai fait le concours de celui qui sortait le plus vite, donc forcément, j'ai gagné. Ma naissance sous l'eau, c'est parce que je devais être un bébé nageur, et puis ça s'est pas fait au dernier moment, donc je devais naître sous l'eau. Mais voilà.
Parce qu'en fait, la piscine n'était pas libre.
Je sais plus ce qui s'est passé. il y a eu un changement de programme, mais alors lequel, je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais bon. Donc du coup, je suis né sur Terre. Enfin, j'aurais pu naître sous l'eau, enfin sous l'eau sur Terre, mais là, je suis né sur Terre, dans la Terre. Et puis mes fugues, c'était, j'ai fait, je crois, une première fugue très jeune, vraiment jeune. Hein, je sais pas, je devais avoir 5 ans. Et puis je suis rentré. De toute façon, il faisait trop froid et trop nuit, donc je suis rentré. Et après, là, je crois, après j'ai essayé d'en faire plusieurs. Et puis une des autres, en faisant du stop, donc pour fuir. Enfin, dans une fugue, on s'enfuit.
Et pour fuir ou pour être aimé?
Pour fuir. Bah si, c'est souvent les deux. Hein, c'est pour fuir et être aimé, mais pour qu'on nous attende avec amour, le retour du fils. Et la seule voiture qui m'a pris, c'est ma mère, donc qui rentrait du boulot. Donc voilà. Donc depuis, je crois que j'essaie de en faisant ce métier, j'essaie de des nouvelles fugues. Donc c'est ça l'expérimental. C'est parce que par la fugue, on va expérimenter quelque chose, et j'essaie d'expérimenter voilà ce que je le plus possible.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez né dans la terre, c'est-à-dire?
Non, je suis né à l'hôpital. Hein.
Ah d'accord, il n'y avait pas de terre partout.
Non.
c'était assez romanesque.
Ouais.
Je vous ai demandé quelque chose de beau à recommander aux auditeurs, et c'est un morceau de 1975.
One ticket, please. Lord, I wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the Music Play, version longue de Barry White, surnommé le maestro de l'amour. Je ne le savais pas, donc je vous le dis. Pourquoi ce choix? C'est la chose belle que vous recommandez aux auditeurs.
Ouais, pourquoi c'est pas beau, Barry White?
Si.
Le mec, j'ai même pas la voix de Barry White, merde, j'ai essayé.
Vous essayez là?
Non, j'ai essayé.
Allez-y.
Non, c'est nul, j'y arrive pas. Mais non, mais ça résume. Bah, Barry White, c'est. Dans cette musique qui est quand même. Enfin, ce morceau-là, en fait, précisément, je l'ai pris parce qu'il parle de la musique, déjà, en général. Enfin, il parle de cette chose qui permet, des fois, de s'éloigner de choses violentes et du coup, bah, d'être dans un autre monde. Et c'est ce que fait la musique, en fait. Elle nous nourrit d'un truc. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous transporte quand même. Et c'est la preuve, ça nous transporte tellement que ça nous fait danser par moments. Donc,
vous
se passe bien quelque chose. Je danse pas, je danse très peu sur des journaux télévisés, par exemple.
Ah oui?
Enfin, ou radio.
Très étonnant.
Mais, non, je suis un très mauvais danseur. Mais, non, mais, et après, bon, chez Barry White, il y a en plus une charge de mélancolie, toujours.
Et érotique aussi.
Érotique, mais il y a plein de choses. Mais dans ce morceau-là particulièrement, il arrive de la rue, où il parle dans la rue, et ensuite, ça devient une musique. Il y a cette espèce de mouvement, là, comme ça, de quelque chose. La vie qui devient une œuvre, je sais pas, il y a un truc très beau, enfin.
Il dit I want to dance the night away, c'est encore une sorte de fugue.
Ouais, mais parce qu'il veut, il a peur de revenir quelque part et qu'une femme soit plus là, et il préfère, enfin, il s'éloigne pour se protéger, et il veut oublier toute la violence ou tout ce qui peut disparaître ou tout ce qui peut ne plus jamais exister, donc il veut rester sur cette scène. Mais et après, donc du coup, c'était aussi en passant ce morceau, c'était mais allez, ouvrez tous vos fenêtres et mettez tous vos chaînes à fond avec de la musique. Non, mais en vrai, ça fait du bien. Enfin, c'est ouais, moi j'en ai tellement besoin, de la musique.
On arrive presque à la fin de cette émission, Damien Bonnard. Il y a un engagement que vous acceptez de prendre à la sortie de cette émission. Et je vous lis. Finalement, essayer d'être cohérent avec tout ce dont je parle avant et avancer dans cette direction avec ses désirs, ses repères, ses positions, ce sera déjà pas mal.
Bah ouais, ou en tout cas de revenir vers vous pour vous dire où je me suis trompé et où j'ai eu réussi, quoi. Enfin,
vous savez que ça m'intéresse parce qu'avant, j'avais l'idée dans cette émission d'interroger les invités quelques mois après pour savoir s'ils avaient rempli leur engagement. puis c'était trop compliqué en fait.
Et on pouvait être réinvité pour justement...
Pas réinvité, mais j'aurais aimé qu'ils nous envoient un message vocal pour dire, d'une minute, pour dire où ils en étaient par rapport à leur engagement.
Donc si c'est mon engagement, donc c'est, si c'est de combattre un ennui et un orgueil, je vous enverrai un message vocal.
Oui, ou un élément de fête.
De fête ?
Oui.
Comme un fête, comme un fait.
Comme un moelleux au chocolat, mais rien à voir.
Ok.
Fête, F-E, chapeau, de fête, T-E.
Ok.
Bon bah, merci beaucoup Damien Bonnard d'être venu. On pourra bientôt vous voir dans les films suivants. Le sixième enfant de Léopold le Grand, Le processus de paix d'Ilan Klipper et La grande magie de Noé Milowski, une comédie musicale. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre humeur aura l'impétuosité d'un cacatoès mentholé. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.